RRB, une radio d'opinion.
Il est midi, voici le magazine des sports. Et avant de retrouver Nicolas Legrand, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une de l'actualité sportive ce midi du football, et Marseille qui remporte l'Olympico sur le terrain de Lyon au terme d'un match serré, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'était véritablement l'affiche de ce week-end pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, Mickaël Genesky.
Succès des Marseillais, 3 buts à 2 dans une rencontre, hein, vous l'avez dit, à rebondissement. Les Marseillais réduits à 10 contre 11 après seulement 6 minutes de jeu et l'expulsion de Balerdi ont encaissé le premier but. Avant de reprendre l'avantage, les Lyonnais étaient parvenus à égaliser dans les arrêts de jeu, mais Roué a inscrit le but de la victoire marseillaise à la 95e minute de jeu, une belle victoire pour l'OM. Et à l'inverse, beaucoup d'amertume pour Pierre Sage, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
C'est invraisemblable, c'est cruel, mais c'est lié au fait qu'on ait laissé notre adversaire en vie, je pense. Et du coup, ils ont gardé espoir. Et toutes les petites choses qu'on leur a laissées, ils les ont capitalisées et transformées en but.
Et avec ce résultat, l'OM revient à la hauteur de Monaco et du PSG en tête du classement. Dans les autres rencontres du jour, justement, Monaco s'est imposé sur le Havre 3-1. Succès encore de Brest sur Toulouse 2-0. De Montpellier sur Auxerre 3-2. Et puis Nantes a fait match nul à Angers, un but partout. Ce sont des points perdus selon le coach des Nantais, Antoine Comboiré.
Je pense que c'est dans la tête que ça s'est passé. On a, avec la frustration, beaucoup voulu résoudre les problèmes individuellement, sous la pression. On a été moins bon techniquement.
On rappellera du week-end le large succès de Nice sur Saint-Etienne 8-0. Des matchs nuls entre Lille et Strasbourg, 3 buts partout. Entre Rennes et Lens, 1 but partout. Score de parité encore entre Reims et le Paris Saint-Germain, 1 but partout. Alors au classement, Paris reste leader à égalité de points avec Marseille et Monaco. Donc les Lensois sont 4e, les Nantais 5e de la Ligue 1. Lyon redescend à la 14e place. Auxerre est 16e, Saint-Etienne 17e et Angers est lanterne rouge. Notez enfin ce total, 36 buts inscrits sur l'ensemble des rencontres de cette cinquième journée de Ligue 1.
Un football toujours, Mickaël, sur les autres pelouses européennes maintenant.
On va commencer par l'Angleterre. L'affiche Manchester City-Arsenal qui s'est terminée sur un nul, 2 buts partout. Liverpool de son côté a dominé Bournemouth 3-0. En Allemagne, le Bayer Leverkusen vient à bout de Wolfsburg 4-3. Le Bayern Munich a conforté sa place de leader après son succès sur le Werder de Brême 5-0. En Espagne, le Barça corrige Villarreal 5-1. L'Atlético de Madrid fait match nul sur le terrain de Rayo Vallecano, 1 but partout. Et puis le Real Madrid a dominé hier l'Espagnol Barcelone 4-1 avec un but de Mbappé sur pénalty. Et enfin dans le calcio italien, le choc des Milan a tourné à l'avantage du Milan AC sur l'Inter 2-1. La Juventus et Naples s'étaient quittés hier sur un nul 0-0.
On passe au rugby avec le RC Toulon qui gagne sur le terrain du Stade Français en clôture de la 3e journée du top 14.
Une victoire difficile des Toulonnais à Paris 14-10, un essai de part et d'autre. C'était l'occasion de voir évoluer le jeune centre toulonnais Antoine Fritsch pour sa grande première en top 14, et ce, après 3 années passées dans les championnats étrangers à Bristol, puis au Munster.
Super content, franchement, bonne première. Et ouais, c'était pas un match beau à voir, mais on a eu le résultat, donc c'est le principal.
Le récap du week-end, Toulouse gagne encore à Montpellier, 20-11. Le promu Vannes s'impose sur son terrain face à Lyon, 30-20. Succès de Clermont sur Bayonne, 26-10. Castres l'emporte sur Perpignan, 27-12. La Rochelle a dominé Pau, 49-25. Enfin, l'Union Bordeaux-Bègles a battu largement le Racing 92, 52-34. Alors au classement, Toulouse est en tête devant l'UBB, Clermont et Castres. La Rochelle est 5e. À égalité de points avec le RC Toulon qui complète le top 6. Perpignan est en bas de tableau avec seulement un point décroché depuis le lancement du championnat.
Du rugby toujours avec le tournoi des nations de l'hémisphère sud.
Et cette énorme surprise lors de la 5e et avant-dernière journée du rugby championship, l'Argentine qui a battu les doubles champions du monde en titre sud-africain. Victoire d'un petit point des Pumas, 29-28 contre les Springboks. La Nouvelle-Zélande de son côté est venue à bout de l'Australie, 31-28. La dernière journée de ce tournoi des des Nations de l'hémisphère sud. Ce sera le week-end prochain.
Du cyclisme avec une année en or qui continue pour le Belge Remco Evenepoel. Il a décroché le titre de champion du monde du contre-la-montre.
Le champion olympique a décroché ce sacre pour la deuxième fois consécutive à l'issue des 46 km de l'épreuve sur les routes de Zurich. Le champion olympique l'a emporté pour 6 secondes seulement de mieux que l'un des spécialistes en la matière, l'Italien Filippo Ganna. Côté tricolore, Bruno Armirail a terminé à la 11e place, à plus de 2 minutes du vainqueur et juste devant le Slovène Primož Roglič.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Avec le Grand Prix de Singapour qui voit le Britannique Lando Norris signer un nouveau succès.
Victoire du pilote McLaren devant la Red Bull de Max Verstappen. Lando Norris qui a donc remporté sa troisième course cette saison pour se rapprocher un peu plus du Néerlandais en tête du classement des pilotes. L'autre McLaren d'Oscar Piastri complète le podium. George Russell sur Mercedes se classe quatrième alors que Charles Leclerc finit à la cinquième place. Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement 13e et 17e sur Alpine. Pierre Gasly n'y va pas par quatre chemins concernant les performances des monoplaces françaises.
On se retrouve à essayer des choses qui sont... J'ai pas vraiment les mots parce que c'est des choses qu'on doit avoir en interne, mais on va dire que le problème, il est fondamentalement qu'on est beaucoup, beaucoup trop loin.
Les prochains Grand Prix de F1, ce sera dans un mois aux États-Unis.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours et en MotoGP, l'Italien Enea Bastianini rafle la mise sur le Grand Prix Émilie-Romagne.
Succès de l'Italien sur le tracé du Misano. Il a doublé l'Espagnol Jorge Martin dans le tout dernier tour de la course. Pecco Bagnaia, quant à lui, dû abandonner après une chute. Du côté des Français, Fabio Quartararo sur Yamaha a pris la 7e place alors qu'il a longtemps occupé la 5e position. Le champion du monde 2021 a été victime en effet d'une panne d'essence à la fin du dernier tour. C'est tout de même le 2e top 10 consécutif pour Quartararo.
On a eu une panne d'essence dans l'avant-dernier virage, donc voilà, déjà qu'on se traîne un petit peu en moteur, en plus on ne tient pas les courses pour essayer d'exploiter le maximum de ce qu'on a, mais voilà, c'est pas vraiment pour terminer 5e ou 7e, ça ne nous change pas vraiment, c'est le rythme qu'on avait, mais voilà, il nous manque vraiment encore beaucoup de choses.
Et l'autre Français engagé dans ce championnat du monde de MotoGP, Juan Zarco sur Honda, a lui terminé à la 15e place.
Il est midi, passé de 7 minutes, rendez-vous après la publicité pour évoquer l'actualité sportive côté calédonien ce coup-ci.
Toute l'info en trois lettres, RRB. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais, on parle donc natation, puisque le premier meeting de la saison 2024-2025 avait lieu hier dans les bassins du CNC. Et on évoque l'actualité de la discipline avec nos invités, Michael Juneski.
Exactement, Jean-Claude Robin, bonjour.
Bonjour.
Président de la Ligue calédonienne de natation. Et puis Stéphane Tijon, bonjour également.
Bonjour, bonjour.
Cadre technique donc également de la Ligue calédonienne de natation. On le disait, ce premier meeting de la saison 2024-2025, Jean-Claude Robin, tout d'abord, évidemment, c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme. On a pu entendre ce week-end sur nos antennes, les nageurs heureux de retrouver la compétition. Pour le président que vous êtes, c'était un beau moment.
Oui, en fait. Juste une précision, c'est dans le calendrier sportif, il est par année civile, mais c'est vrai qu'on peut considérer que c'était une reprise, puisque depuis 4 mois, il n'y avait pas eu de compétition. Donc cette compétition d'hier a fait plaisir à tout le monde, puisque depuis le début de l'année, il y a 3 compétitions qui n'ont pas pu avoir lieu, donc qui nous ont mis en difficulté par rapport à un processus de sélection pour divers championnats. Et donc il y avait 120 nageurs et nageuses dans le bassin du CNC. Effectivement, on était très heureux de voir autant de monde. Habituellement, sur ce format-là, c'est 150 nageurs. Mais on était très satisfaits, tout s'est très bien passé dans la réglementation sécuritaire.
Justement, vous en avez touché un mot, l'impact de cette crise insurrectionnelle que connaît la Calédonie, forcément la natation calédonienne est touchée. Quelles sont les conséquences pour le moment? Il y aura encore du temps, j'imagine, pour dresser un constat global, mais pour le moment, les premiers effets perceptibles.
Les premiers effets, effectivement, c'est la fermeture d'un certain nombre de bassins, pour certains qui n'ont pas encore réouvert, pour des raisons techniques. Donc, c'est une première difficulté. Les gens un peu prudents pour se déplacer sur certains bassins, mais ça, c'est en voie de se régler. L'autre conséquence pour certains nageurs, disons, qui sont dans l'accès au haut niveau, c'est un départ vers d'autres horizons, etc. On a 6 nageurs qui sont parmi nos meilleurs nageurs, puisqu'ils sont partis dans des structures de haut niveau ou d'accès au haut niveau en métropole, dans des départs différés qui n'étaient pas prévus dans l'immédiat, mais qui, le contexte faisant que c'est l'agent. Après, sur le nombre de licenciés, il faut voir. Pour l'instant, on n'est pas impacté, puisque jour pour jour, par rapport à il y a un an, on a commencé la campagne de licence le 1er septembre. On est à 120 licences de plus par rapport à la même date de l'an dernier. Maintenant, ça se mesure de mois en mois, etc. Donc, on fera le bilan sur l'impact que pourrait avoir ce que nous avons vécu à la fin de l'année et après, au final, en fin d'année prochaine. Mais pour l'instant, au niveau des clubs, donc au niveau du compte des licences, il n'y a pas de perdition. Sur l'objectivité des licences. Ça, c'est des chiffres qui sont au jour d'aujourd'hui.
Oh, mais des chiffres à relativiser. Le sentiment, en tout cas, c'est qu'on peut s'attendre à des jours difficiles pour les clubs.
Des jours difficiles, faudra être trop optimiste, mais c'est vrai qu'il y a un autre paramètre. C'est vrai que les encadrements dans les clubs, majoritairement, ont beaucoup bougé ces derniers mois. Et que là aussi, il y a au niveau des clubs à se restructurer, à se repositionner, peut-être à changer, à faire évoluer leur projet sportif compte tenu des circonstances. Mais le constat aujourd'hui, c'est que effectivement, les clubs ont perdu en technicité. Voilà. Mais rien n'est perdu parce que quand il y a une chaise vide, il faut la remplacer. Et j'allais dire, ça c'est une tâche qu'on a pris en compte à la Ligue depuis un moment. C'est une des raisons pour lesquelles Stéphane Tichon, etc., a été recruté il y a un an, justement pour accompagner la Ligue et surtout les clubs pour leur permettre d'avoir des gens formés, etc. Sauf que la formation... avant d'en tirer des bénéfices, il faut former les gens, il faut que ces gens puissent acquérir de l'expérience sur le terrain, et on en mesure les effets à N plus 2, plus 3 ou plus 4. Mais au niveau du renouvellement de nos meilleurs nageurs, il est évident qu'on a encore des ressources, puisqu'on a des jeunes qui sont nés en 2008, 2009, 2010, qui sont là, qui sont très jeunes, et pour certains, qui ont des performances à leur âge, en référence aux mêmes âges de nos meilleurs nageurs, qui sont en métropole.
Stéphane Tichon, justement, même question concernant votre rôle en tant que cadre technique à la Ligue. Et puis, ça va sans doute faire écho à ce que disait Jean-Claude. Il y a ce souci, notamment pour les encadrants dans les clubs, au niveau de la Ligue. C'est ça, aujourd'hui, le nœud du problème vis-à-vis de la situation qui touche le territoire ?
Effectivement, accompagner les clubs à se structurer, à avoir les compétences en interne pour pouvoir poursuivre leur construction et leur évolution, c'est quelque chose d'important. On essaie d'y remédier à travers des actions de formation qui sont mises en place à la fois auprès des dirigeants et puis également auprès des coachs de façon régulière à travers des actions ponctuelles comme les jeudis de la natation, donc un soir tous les deux mois où on se retrouve et on échange autour de thématiques d'entraînement, ou bien plus spécifiquement Tour d'Action où on fait venir des gens de la métropole. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. En octobre, Jean-Lionel Rey, qui a été 20 ans entraîneur à l'INSEP, vient passer 2 semaines ici. Donc on a des stages de lit qui sont proposés de la première semaine pour les Benjamins, la deuxième semaine pour les juniors, et il sera là pour accompagner les coachs aussi et venir mettre un peu en réflexion tout le monde sur comment on peut accompagner au mieux ces populations-là pour les rendre encore plus performantes.
Au bout de, voilà, Jean-Claude Robin le disait, un mandat déjà un peu plus d'une année passée ici sur le territoire, les principaux atouts pour la natation calédonienne et puis les principales contraintes.
Alors je pense qu'en termes d'atouts, on a quand même des gens qui sont motivés dans les clubs, alors ça c'est évidemment super important. Ensuite, on a des équipements qui sont quand même aussi intéressants, hein. Si je prends le Grand Nouméa avec 2 piscines olympiques et puis des bassins de 25 mètres, il n'y a pas beaucoup de grandes villes en métropole qui ont les mêmes conditions et mêmes possibilités d'entraînement. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, il faut que les collectivités accompagnent les clubs pour pouvoir poursuivre leur développement. Et évidemment, la piscine, elle est occupée non seulement par les clubs, mais aussi par la population, les créneaux publics, les écoles, etc. Donc trouver les meilleurs compromis pour faire en sorte que chacun puisse évoluer. Voilà.
Jean-Claude Robin, au niveau du travail, on en est où, puisqu'il y avait beaucoup de choses faites pour la Ligue calédonienne de natation, que ce soit pour les pratiquants dans le haut niveau, autant que pour le grand public. Avec ce qui se passe, on a l'impression de revenir en arrière. Au contraire, on pense qu'on va se stabiliser. Comme ça a été le cas pour le Covid, qu'on va pouvoir assez vite relancer la machine. On en est où?
Oui, je pense que la machine n'est pas en panne. Il y a un petit ralentissement. Bon, je crois que là, pour l'instant, on est en panne de carburant, mais ça va repartir. Après, il y a des contraintes multiples. Bon, là, on ne peut pas tout évoquer parce qu'on est pressé par le temps. Mais il est vrai que les accompagnements dans le cadre des crédits de subvention pour accompagner notre ligue, comme les autres ligues d'ailleurs, je ne vais pas vous faire un dessin, bon, on le connaît, donc ça c'est un frein par rapport à emmener d'autres enfants vers l'excellence, etc. Donc il y a des choses, nous avons fait le pari à la ligue, malgré les difficultés, y compris d'accompagnement financier, de maintenir un programme à l'identique de ce qu'on avait prévu en début d'année. Donc, hormis les compétitions qui ont dû être arrêtées, bon, parce qu'on ne pouvait pas, on maintient, voilà. Mais donc ça, c'est effectivement un frein au développement. Après, on n'est pas dans un débat qui serait à côté de la plaque. Mais on est comme tout environnement. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui comment ça sera dans un an par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Il est bien évident que si, comme on l'entend un peu, il y a beaucoup de départs, je ne vois pas pourquoi la natation ne serait pas... mais on ne peut pas le dire exactement aujourd'hui, puisque le chiffre que je vous annonçais montrerait le contraire. C'est pour ça qu'il faut attendre sur le long terme. Mais... ce qui, vous savez, hier, je le disais à certains, autour du bassin, pour une compétition qui nécessite 18 officiels, il y en avait 34. Donc, ces officiels sont bénévoles. Et je ne compte pas les 6 qui sont en formation, ce qui fait 40 officiels. Et une compétition comme celle-là, en métropole, ça n'existe pas. Je veux dire... le même type de compétition, il va y avoir 10, 15 officiels. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des parents, donc des bénévoles qui y croient, etc., et des dirigeants qui y croient, parce qu'ils font la promotion aussi d'amener des bénévoles dans les clubs. Donc, c'est positif. Voilà, donc...
De bonnes raisons d'être optimiste.
Oui, je pense. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais d'enfants qui sont nés en 2009, 2010, 2011, 2012. Certains font les mêmes performances au même âge, quelquefois mieux que Maxime Rousset, au même âge. Après, ils ont 12 ans, 13 ans, donc il faut... voilà.
Vous mettez le doigt dessus, justement. Nous sommes une année olympique. Maxime Grousset, Emma Terebo, qui étaient en équipe de France, c'est quand même pas rien. Hein. Deux Calédoniens qui faisaient partie de cette Olympiade dans l'équipe de France de natation. Et au niveau calédonien, bon, bah, les fruits qu'on aimerait récolter de tout ce travail qui a été effectué en amont, on ne les voit pas arriver.
Ben, si, ils vont arriver, mais sauf que les successeurs de Maxime, enfin, potentiels, et des Materebo dont vous parlez, ils ont 17 ou 18 ans. Or, à 17 ou 18 ans, Emma Terebo, elle était encore au CNC. Voilà. Et donc, il faut... bon, je pense à Ethan Duménil, hein, oui. Effectivement. Dont on peut, mais il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas les nommer les uns après les autres, parce que...
On ne va pas faire de jaloux.
Certains diraient, ah, bah, tiens, il a parlé de... Mais il y a actuellement, en métropole, dans des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans, des nageurs qui ont le même potentiel que Kema et Maxime au même âge. Donc, qui sont dans les mêmes conditions pour arriver. Après, comment ça se traduit pour Los Angeles et éventuellement Brisbane ? Alors, ça c'est autre chose.
Attention au micro.
Sur les 5 ou 6 que je vous dis, il n'y en aura pas 5 ou 6, parce qu'il y a des abandons, parce que la natation est un sport exigeant, enfin, vous le savez aussi bien que moi, et que ben, pour arriver à ce niveau-là, ben, voilà. Donc, mais y a, les conditions sont réunies pour qu'il se passe la même chose. Et si on redescend encore en âge avec nos jeunes qui sont au biberon encore, là, qui ont entre 12, 13, 14 ans, on a 3 ou 4 éléments, je parle sous le contrôle de Stéphane, qui ont les mêmes potentiels. Donc, voilà. Donc, ça se renouvelle. Ça se renouvelle beaucoup mieux, pardonnez-moi, qu'il y a 15-20 ans où c'était un de temps en temps. Là, on a des volumes, etc. Je vous dis, il y en a actuellement 16 qui sont à l'extérieur, qui sont les meilleurs nageurs du territoire, qui sont en train de poursuivre leur formation et leur développement vers le haut niveau.
Stéphane Tijon, justement, hein, et en guise de... Déjà, on va s'approcher de la conclusion et puis surtout des perspectives pour au moins cette année au niveau de la Ligue calédonienne de natation. Des projets, ça au moins, vous n'en manquez pas, hein,
c'est oui,
ça en
sûr.
Quelques mots.
Alors effectivement, bon, des projets évidemment autour de l'accompagnement de la performance avec des regroupements sur les différentes catégories d'âge, accompagnés voilà, parfois des personnalités, en tout cas quand on aura l'occasion de le faire. Et puis donc des sélections sur différents événements. L'année prochaine, il y a les mini-jeux de Palau. Donc là aussi, on espère pouvoir représenter une équipe, puisque la natation y sera représentée.
C'est l'un des principaux objectifs déjà.
C'est un des principaux objectifs, on va dire, pour la Ligue l'année prochaine en termes de compétition à l'extérieur. Ensuite, on vous parlait de programmes de formation, puisqu'on s'est constitué en tant qu'organisme de formation. Donc on a des formations d'entraîneurs, et puis on va continuer à proposer des actions plus ponctuelles pour la formation continue des entraîneurs notamment. Et puis un dernier volet de développement, où là on a aussi une grande intention pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle un projet autour de l'aisance aquatique sur l'ensemble du territoire. Donc on est en contact avec la province des îles et puis la DANC notamment pour mettre en place un programme de formation à destination des éducateurs, mais également des instituteurs, des accompagnateurs, etc., pour justement les aider à accompagner les enfants au mieux dans la prise en charge des activités de la natation. Donc ça, c'est un beau projet, à la fois un volet formation et prise directe avec le public. Donc on sera sur le terrain avec tous ces éducateurs pour partager avec eux les propositions qui sont faites par la fédération en termes de démarches pédagogiques les plus adaptées aujourd'hui. Voilà, hein, si vous regardez un peu l'histoire de la natation, entre ce qu'on pouvait faire il y a encore quelques années, aujourd'hui, ça a quand même bien évolué dans l'approche.
Là, c'est vraiment casser auprès des scolaires, casser une certaine image de la natation pour pouvoir amener un autre public vers la pratique.
Oui, effectivement, parce que nous, on est évidemment convaincus que c'est une activité très riche en termes de développement. Alors, développement de l'individu, développement des capacités physiques. Et puis, dans un environnement comme le nôtre, ici, entouré d'eau, c'est fondamental. Donc, voilà, c'est un de nos gros projets aussi pour l'année qui vient.
Très bien. Eh bien, une affaire à suivre. Beaucoup de projets, hein. Forcément, ça fait des cheveux blancs aux élus, au président de la Ligue Natation à vos côtés, mais c'est un signe encourageant pour la suite de la discipline.
C'est challengeant, effectivement. Donc, voilà, c'est intéressant de garder des projets forts.
Jean-Claude Robin, un dernier mot en guise de conclusion.
Au niveau des cheveux, je suis tranquille. j'en ai déjà plus beaucoup. Non, bah, merci. Enfin, nous, on va continuer. Voilà, y compris à l'issue des élections, puisqu'il y a des élections le 11 octobre. On renouvelle l'ensemble du comité directeur. Donc, on verra ce qui sortira des urnes. Bon, pour l'instant, je regarde derrière moi, il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon.
Vous devrez rempiler, vous pensez ?
Pardon ?
Vous devrez rempiler.
Ça, c'est les gens qui votent qui le diront.
Merci encore Stéphane Tijon, Jean-Claude Robin d'avoir accepté notre invitation ce midi dans ce Mac des Sports.
Merci.
Et pour finir ce Mac des Sports, on va passer en revue les performances du week-end. Tout d'abord, Mickaël, hors du territoire.
Oui, avec du cyclisme et Ryan Lachny qui a remporté le Tour Tahiti Nuit 2024. Il a terminé avec le maillot jaune au terme des 8 jours d'épreuve au Fénois. Il roulait sous les couleurs du club de la Espirae. Et puis en cyclisme sur piste cette fois, Hervé Salin est lui devenu ce week-end triple champion junior de Bretagne. Il participait à la compétition en raison de sa double licence prise au club de Loudéac. Il s'est imposé en finale de la vitesse, en finale du Kérin, et ça c'est pour la partie individuelle, et puis en finale de la vitesse par équipe. En kickboxing cette fois, un comeback gagnant sur le ring pour Cédric Do, le Calédonien fighter qui était en Croatie à 29 ans. Il s'est imposé par KO au deuxième round sur le croate Philippe Matic. C'est sa 35e victoire en 42 combats. Du football, avec la petite finale du championnat féminin d'Océanie des moins de 16 ans et les jeunes calédoniennes qui se sont inclinées 1-0 contre les Tongiennes ce week-end pour finir 4e d'un tournoi remporté par la Nouvelle-Zélande. En Calédonie, du foot aussi, 3e match amical de préparation pour la sélection A de Calédonie. Les joueurs de Johan Zidaner se sont imposés 3-2 face à Horizon Patho. Et puis on termine avec de la boxe. C'était samedi à la salle des sports de Lanzvata. Une belle journée pour le comité régional de Calédonie. Une 60aine de boxeurs venus des clubs de Dimbéa, du Mont-d'Or, de Lanzvata et de Rivière-Salée qui prenaient part à cette journée des clubs de boxe, journée de retrouvailles. Les objectifs étaient très précis pour Christophe Savoie, cadre technique du comité régional.
Le premier, c'était de rassembler les troupes. C'était de faire plaisir à tous les boxeurs, les licenciés qui n'ont pas eu de compétition depuis le mois de mai. Donc on n'a pas fait de compétition. Mais le fait d'avoir différents clubs, de pouvoir avoir des tests matchs, des petites mises de gants, comme on dit, entre les différents pratiquants de différents clubs. Et le deuxième objectif, c'était aussi de mettre en situation réelle les assistants prévôts qui ont passé leur stage le mois dernier. Donc je leur avais demandé de préparer différents ateliers pour les différents niveaux. Tout le monde est content et tout le monde demande à remettre ça le mois prochain. Mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire un tournoi. Donc voilà.
Et parmi les participants, Gaston Paul, licencié à l'est 6e kilomètre. Malheureusement, son club est fermé depuis plusieurs mois en raison des émeutes. Alors pour garder le rythme et continuer de pratiquer son sport, il était présent à la salle de Lanzvata.
Exactement, ouais, ça fait beaucoup de bien. Et bah, au début, on faisait un enchaînement de 10 minutes. Et après, bah, on a attaqué avec les sparring. Sparring deux fois 2 minutes. Comme c'était tranquille, on venait de reprendre. Et ouais, ça s'est bien passé. On était contents de se revoir encore entre boxeurs. Hâte de reprendre les combats, ouais. Ouais.
Voilà, vous l'avez entendu, donc les entraînements qui ont repris à la salle de boxe de Lanzvata et déjà l'envie chez les boxeurs de reprendre aussi les combats.
Merci beaucoup Mickaël Juneski, merci à tous d'avoir suivi ce journal. C'est la fin donc de cette édition et de ce Mac des Sports. Prochain point sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec le Flash. À tout à l'heure.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.